Frédéric Oudéa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Société Générale. On va parler avec vous de marché, de cette actualité des marchés. Vous êtes à Paris Europlace, vous avez parlé de la banque d'investissement, de financement d'investissement. On va en reparler tout de suite sur la Grèce. Comment vous regardez-vous en tant que banquier européen, banquier d'envergure mondiale, ce qui se passe sur un petit pays, 2% du PIB européen, on le dit, mais qui inquiète les investisseurs? Comment vous avez analysé ce qui s'est passé?
Alors, je crois qu'on est face à un problème maintenant essentiellement politique. Il n'y a pas eu tant d'inquiétude des investisseurs. Les marchés ont finalement réagi de manière très rationnelle, à un peu plus d'incertitude, mais sans plus. Et la taille, comme vous le dites, du pays fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet financier direct majeur. Par contre, l'issue de cette discussion peut soulever des questions politiques sur la zone euro en particulier. Et c'est plutôt ça qui est important, et c'est pour ça que vous avez bien sûr les gouvernements en première ligne.
On voit quand même des engagements de banques, on voit des montants qui peuvent paraître importants. Et aujourd'hui, quand on discute avec certains investisseurs, ils disent de toute façon, les Grecs ne rembourseront jamais. Donc on reporte le problème.
Les engagements des banques, les engagements du secteur privé, à ma connaissance, sont quand même très faibles. Pour prendre l'exemple de la Société Générale, c'est public. Il y a à peu près 200 millions d'euros de risques résiduels sur la Grèce. Donc c'est totalement marginal. En revanche, on sait, la dette grecque, elle est maintenant essentiellement dans les mains de créanciers publics. C'est vrai que pour nous, contribuables, l'issue n'est pas complètement neutre. Encore une fois, au-delà de ces questions financières qui sont maîtrisables, gérables, désagréables, mais potentiellement maîtrisables, c'est bien politiquement le sens de la zone euro, la géopolitique aussi, avec la place de la Grèce qui est posée. Et c'est donc normal que ce soit les gouvernements, bien sûr, qui soient en première ligne.
Donc le risque est plus sur des flux financiers qui se retireraient de la zone euro en pensant que la zone euro pourrait éclater, par exemple, ce type de comportement-là.
Oui, encore même pas tellement, à mon sens, très vite et immédiatement. C'est plus à plutôt moyen terme, notamment lorsque la Banque Centrale Européenne arrêtera d'acheter des obligations souveraines, que si la zone euro n'a pas retrouvé de la croissance, que chacun des pays étant donc confronté à son propre problème, il pourrait y avoir de nouveau des questions et effectivement des spreads de dette souveraine plus écartés qu'aujourd'hui. Je crois qu'on n'en est pas là, mais par contre, si jamais la Grèce sortait, il faudrait probablement que les gouvernements européens travaillent dans les 18 prochains mois pour voir comment à nouveau rassurer sur l'engagement européen partagé, mutuel, et aller vers probablement plus d'intégration.
On le sait, c'est toujours difficile de prévoir les crises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la Société Générale d'aujourd'hui, celle de 2015, est mieux à même d'être préparée à un choc, un nouveau choc?
Ah, c'est totalement évident pour moi. Alors, pourquoi? Parce que depuis 5 ans, on a profondément changé ce qu'on appelle le business model. Les sensibilités à des activités de marché type compte propre sont totalement réduites. Nous avons un coussin de capital, de la liquidité. Donc je suis extrêmement serein sur la gestion, d'ailleurs comme des volatilités précédentes sur les marchés, par la Société Générale. Nous avons un modèle extrêmement solide. Et donc ce qui compte plus, si vous voulez, c'est dans le futur, le financement de l'économie, à quel taux est-ce que la politique monétaire accommodante pourra se transmettre dans l'économie. C'est ça qui compte avant tout, me semble-t-il, du point de vue des marchés financiers.
Alors les banques, et la vôtre aussi, mettent parfois en avant le fait que les contraintes réglementaires l'empêcheraient peut-être de financer plus l'économie, notamment les entreprises. Comment ça avance aujourd'hui? On parle de cette union des marchés de capitaux après l'union bancaire. Est-ce qu'elle va dans le bon sens?
Alors d'abord, nous avons accepté l'idée qu'il faut des banques plus petites en bilan, dont la contribution au financement de l'économie soit plus faible et une part croissante des marchés de capitaux. Ce que nous disons simplement, effectivement, il ne faut pas aller trop loin dans les exigences qu'on nous demande parce que l'agenda n'est pas tout à fait terminé et plus on en accumule, plus ça devient compliqué pour nous de prêter, y compris notamment parce qu'aussi des nouveaux impôts peuvent être créés quand on prête. Et donc les deux contraintes s'accumulent. Alors maintenant, sur l'union des marchés de capitaux en Europe, nous y sommes favorables. L'idée d'avoir un marché plus intégré, plus harmonisé, c'est une opportunité pour nous, grandes banques d'investissement, et ça peut nous permettre justement de financer l'économie à la fois par des crédits et par des instruments de marché. Nous y sommes favorables. Mais c'est là où il faut avoir une ambition stratégique et cohérente, c'est-à-dire pas se contenter de 2-3 petites mesures, mais se dire au fond, que veut-on pour ces marchés de capitaux? Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est nécessaire d'avoir des grandes banques européennes fortes sur ces marchés? Ensuite, quels sont les instruments qui vont permettre de stimuler le financement de l'économie? Et bien sûr, le cadre réglementaire et de supervision. C'est tout un ensemble qu'il faut arriver à concevoir et j'espère que l'Europe aura cette ambition.
Aujourd'hui, vos concurrents sont ces banques américaines qu'on cite parfois comme les Goldman Sachs ou autres. Vous avez ce matin, vous êtes intervenu sur ce développement de cette banque de financement d'investissement en Europe. Quels sont les points clés justement sur lesquels vous pouvez vous aussi grandir et peut-être faire concurrence enfin véritablement à ces banques?
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès des banques américaines? Ben, au fond, ils ont un marché de 300 millions d'habitants sur lequel il y a 5 ou 6 acteurs qui se concentrent l'essentiel des parts de marché, avec de nouvelles règles applicables aux banques étrangères qui sont beaucoup plus contraignantes. Ben moi, j'aurais presque envie de repliquer ce modèle pour l'Europe et la zone euro. C'est-à-dire se dire, ben, comment est-ce qu'on crée un marché de 350 millions d'habitants d'épargnants qui soit suffisamment fluide pour que l'épargne puisse circuler, avec des instruments comme la titrisation, le private placement qui puisse s'adresser à des entreprises de taille plus petite que les grandes qui accèdent d'ores et déjà au monde obligataire, et avec la capacité pour des établissements comme nous, leaders sur la zone euro et l'Europe, bah de tirer profit de cela et de pouvoir ne serait-ce que prêter plus parce qu'on sait qu'on va refinancer sur les marchés de capitaux. Et au fond, peut-être avoir des règles d'ailleurs qui s'appliquent aux banques étrangères et qui soient un peu en parallèle des règles américaines s'appuyant sur les banques étrangères. Voilà, donc ça c'est mon rêve, mon ambition. J'espère, je répète, que l'Europe aura aussi un niveau d'ambition élevé pour les marchés de capitaux et les intermédiaires que nous sommes.
On voit des banques étrangères comme Barclays ou Deutsche qui sont en train de transformer leur business model avec peut-être une rentabilité supérieure à la vôtre. Est-ce que votre souci principal, quelque part, c'est comment vous allez faire pour améliorer votre rentabilité dans ce modèle-là? Parce qu'il y a certaines critiques sur finalement cette banque universelle-là n'est pas aussi rentable que d'autres modèles.
Est-ce que vous me permettez de corriger pour dire d'abord, nous avons une banque universelle rentable et notamment une banque de financement et d'investissement très rentable, alors que c'est vrai que d'autres doivent revoir leur stratégie parce qu'en fait, ils étaient plus exposés aux activités qui vont disparaître. Donc ils avaient beaucoup plus à perdre que nous et peut-être d'une certaine manière ont été au fond un peu hésitants à remettre en cause ce modèle. Nous, on a fait les choix très tôt. Sous la contrainte parfois, mais aussi dans une logique stratégique. Et je crois que nous avons un modèle bien adapté au monde de demain, aux besoins de financement de l'économie, de nos clients et des nouvelles régulations. Ensuite, notre modèle de banque universelle, on doit continuer à l'affiner, l'optimiser pour atteindre cette rentabilité de 10% qui me paraît le chiffre d'ailleurs auquel tout le monde parvient. Et nous en sommes très proches. Les résultats du premier trimestre le montrent. Je suis confiant qu'on saura atteindre ce 10% de rentabilité en continuant à travailler dur comme on le fait aujourd'hui chaque jour.
Le mot de la fin, on a parlé des concurrents américains. Est-ce que votre principal concurrent, peut-être celui d'aujourd'hui ou de demain, c'est pas une fintech? Alors, elle peut s'appeler, ça peut être une start-up, mais ça peut être aussi un Google, un Alibaba, qui fait le même métier que vous sur un réseau mondial et qui a, par exemple, prenons Google, une licence bancaire en Europe.
Alors premièrement, d'abord, il est incontestable que désormais pour moi le défi numéro un de toutes les banques, et en Europe en particulier dans la banque de détail, c'est l'adaptation au numérique, qui va changer la donne. Et quand je dis ça, il y a bien sûr potentiellement des nouveaux entrants, des nouveaux compétiteurs, qui peuvent nous regarder ne serait-ce qu'une partie de nos services. En même temps, je crois qu'il ne faut pas du tout oublier que les banques sont des partenaires de confiance, de longue date. Et si vous voyez le versant positif du numérique, il faut aussi voir le versant avec l'aspect de cybercriminalité qui va encore se développer. Et je crois que notre atout à nous, banques, c'est de dire, allez en confiance, y compris faire des transactions avec nous dans le numérique. Donc nous devons absolument innover. Mais on le fait, à mon avis, en assurant cette sécurité. C'est tout, en tout cas, l'enjeu et l'ambition que nous avons. Donc je reste confiant sur notre capacité d'adaptation, même si nous devons être très lucides, très humbles face à l'impact des nouvelles technologies.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, Frédéric Oudert.
Merci.